Bonjour pour ce numéro de la Perle à rebours spécial Fête des langues. Nous sommes allés à la rencontre de Margot Wolf, Marie-Noëlle Salin et Mohamed Souleymane. Margot Wolf et Marie-Noëlle Salin font partie de l'équipe des enseignantes de l'atelier de français ouvert aux exilés, atelier qui se situe au Café La Perle et à la résidence Zellige à Nantes. Mohamed Souleymane leur vient en aide en qualité de traducteur. Nous rejoindrons en fin d'émission quelques apprenants. Qu'est-ce qui vous anime pour donner de votre temps pour assurer des cours de français ?
Je suis aussi accueillante à la maison.
Margot.
La première personne que j'ai accueillie chez moi, je ne connaissais pas les cours, je ne connaissais rien de tout ça. C'était un jeune Malien, mineur, laissé à la rue parce que non reconnu mineur. Et en fait, ce garçon voulait apprendre le français à tout prix. Il y passait 9 heures par jour avec mon concours dans ma cuisine. On était tout le temps ensemble et c'était du lundi au lundi. Il apprenait le français et sa volonté d'intégration, elle passait par là. C'était déterminant pour lui parce que lui, ce qu'il voulait, c'était pour apprendre le français, être en capacité d'intégrer une école. Donc apprendre le français avant tout pour intégrer une école. Et ça m'a drôlement déterminée. Je me suis dit, mais c'est fabuleux en fait, une telle volonté. Et j'ai connu l'autre classe qui officiait ici et puis après, ben voilà, l'engrenage était là. Et donner des cours, ben, je trouvais que c'était un beau cadeau qu'on me faisait de pouvoir les donner.
Souleymane.
J'ai passé cette expérience ou bien ce cas-là quand j'étais en Suède avant de venir ici. Et c'est la même histoire qu'on ne peut pas accéder à l'école ou apprendre la langue suédoise tant qu'on n'a pas la réponse positive. Donc je partais dans une association où j'essayais d'apprendre la langue suédoise. Donc quand je suis venu ici en France, donc, je me suis dit il faut... C'est un truc que j'ai vécu. Il faut aider les nouveaux arrivants en France qui veulent vraiment intégrer et apprendre la langue française.
Ça aide d'avoir un traducteur ?
Ah oui, ça nous aide beaucoup, réellement, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes personnes qui viennent du Soudan, qui ont un arabe littéraire. Passer au français comme ça, c'est pas si évident que ça. Enfin, Souleymane, il apporte des clés qui sont drôlement utiles, et je crois qu'on n'a pas encore tout bien vu comment tu peux nous aider, en fait. On est en train de le découvrir et de s'apercevoir de l'aide que c'est pour nous, en fait, et pour eux, hein, bien sûr, mais pour nous aussi.
Vous parlez combien de langues, Marie-Noëlle ?
Français.
Français ?
Alors, je parle l'arabe, le français, mais j'ai quelques d'autres langues où je parle 10 à 15%, comme le somalien, l'éthiopien un peu.
Alors, je parle un français à peu près correct. On se posait la question du niveau qu'on a. Je parle l'anglais, je comprends. Je parle très, très légèrement de l'allemand. Et puis le Schwitzerli aussi un petit peu, vous ne connaissez pas le Schwitzerli, c'est un dialecte suisse, mais je comprends mieux que je ne le parle.
Et Souleymane, vous avez appris l'arabe à l'école ?
L'arabe à l'école, oui.
Et le français ?
Surtout, c'est le français que j'ai appris à l'école. L'arabe, c'était la deuxième langue, parce que mon père, on était au début quand j'étais enfant, on était dans un pays francophone, donc j'ai fait toutes les primaires à l'école, et puis en retournant à mon pays origine du Yémen, là-bas je me suis inscrit dans une école libanaise qui font le français. Et voilà.
Vous n'êtes pas des professionnels de l'enseignement.
Marie-Noëlle a travaillé beaucoup de techniques, moi je n'ai pas vraiment le temps. Mais ce que j'aime bien et ce qui nous relie en fait, c'est que moi j'ai appris l'anglais en étant en Angleterre. Je n'ai pas appris autrement, à l'école je n'ai pas appris. Et ce que j'aime bien en fait, dans la manière dont Marie-Noëlle elle met en œuvre les choses, c'est que c'est aussi un peu sur le tas comme ça. C'est-à-dire elle utilise quelque chose, comme tu m'expliquais, on a utilisé la poésie, la journée de la poésie, et on en a refait un thème avec les apprenants. Donc en fait, on ne passe pas par la grammaire, on passe par beaucoup de vocabulaire, on ne passe pas par l'explication grammaticale, on va passer par une situation et permettre aux gens surtout de s'exprimer, eux, avec le français qu'ils ont, avec le petit outillage qu'ils ont. Et en ce sens-là, c'est aussi un peu de l'apprentissage sur le temps. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Certaines méthodes m'intéressent, comme effectivement la méthode naturelle de lecture-écriture qui vient de Célestin Freinet, où c'est l'apprenant qui est au centre de tout. Et nous, on est serviteurs, quoi. On accompagne la langue.
L'intérêt, c'est de rapidement pouvoir se débrouiller seul, donc pas besoin d'avoir un vocabulaire très développé.
Non, savoir faire une phrase assez rapidement, utiliser les verbes être et avoir au passé, au présent, au futur, et avoir du vocabulaire, effectivement, pour identifier des rues à gauche, à droite, en haut, en bas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le parler courant, enfin, c'est un petit peu ce qu'on met en œuvre, en fait. Hein, c'est que cette capacité à parler, à se faire comprendre et à être compris, et à comprendre. Enfin, voilà, je crois que, je ne sais pas si j'explique bien.
Et à être autonome.
Souleymane.
C'est ce que souvent, moi, je conseille avec nos apprentis. Il faut s'intégrer pour apprendre une langue. Il ne faut pas rester en commune, c'est-à-dire le Soudanais en Soudanais, 24 heures, non, non. Essayez de s'intégrer dans l'association, sortir, voir, s'inscrire dans des bénévoles. Comme ça, la personne est obligée de communiquer. À mon façon, c'est la meilleure chose de capter la langue.
Plus on est jeune, plus on a une capacité à apprendre facilement une langue.
Ça, c'est un point très important. Oui, parce que moi, j'ai l'exemple, mon petit-fils, on est arrivé en France en juin 2022. Il parlait que le suédois et l'anglais et l'arabe. Alors maintenant, il pratique la langue française, la top, même plus que l'arabe. Il est très jeune, donc je suis sa stratégie à l'école. Chaque jour, il a 5 mots, pas plus. Il vient, on travaille à la maison sur ces 5 mots. Le lendemain, il a un dicté, étape. Et maintenant, il pratique le français. Peut-être c'est la première langue pour lui.
Dans la cour d'école, il est en pleine immersion, donc il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix, voilà.
Il n'a pas le choix.
Alors, c'est ça l'exemple que j'ai dit. Donc, il faut s'intégrer, essayer de sortir de la routine.
La moyenne d'âge, pour reprendre votre expression, des apprenants?
Ce sont des adultes. Moyenne d'âge,
20 à 30 ans.
J'imagine qu'à partir d'un certain âge, c'est compliqué d'apprendre une langue.
C'est vrai. Après, je pense que finalement, dans cette école, on apporte des prémices, enfin les premiers outils de la langue française. Après, les gens, quand ils ont obtenu le droit de demander l'asile en France, ils ont des cours qui sont plus techniques. Hein. Donc, j'espère que ça les aide beaucoup. Enfin, on peut espérer ça. Mais ça nous est arrivé d'avoir aussi des mineurs ici. Pas beaucoup de mineurs, on en a eu quelques-uns. C'est fulgurant chez eux, hein, l'apprentissage de la langue. Parce que si vous considérez un Africain, par exemple, du Mali, il est soninké, donc il parle le soninké. Il parle forcément le bambara, parce que c'est la langue commerciale qui est interpays, finalement. Hein. L'autre, il va parler... Enfin, voilà, ils auront plusieurs langues. Hein. Au Burkina, ben, il y a le bissa. C'est un pays francophone, ils apprennent le français à l'école, mais il y a toutes sortes de langues. Il peut y avoir aussi le bambara. Voilà. Donc, de toute façon, ces jeunes-là, ils ont déjà au moins 2, voire 3, voire 4, des fois, parce que pour le passage, en France, ils stationnent souvent en Libye, et en Libye, bah, ils apprennent quoi ? Ils apprennent l'arabe, et ils l'apprennent très très vite. Donc, résultat des courses, on a des jeunes gens, ou moins jeunes, qui arrivent ici, qui ont déjà une pratique d'au moins 3, voire 4, voire 5 langues, depuis leur pays, et depuis leur trajet.
Là, on a abordé la question d'un point de vue de l'oralité. Il y a aussi l'écrit qui est abordé.
Ils écrivent beaucoup. Ils écrivent ou ils prennent en photo. C'est-à-dire ceux qui n'écrivent pas prennent en photo le tableau, mais on en a quand même pas mal qui écrivent. Je ne dis pas de bêtises, hein, je crois.
Ils prennent deux photos parce qu'ils voient qu'ils sont un peu ralentis pour écrire. Oui, donc ils préfèrent prendre des photos et puis écrire doucement chez eux. Mais moi, je vois que vraiment, c'est très important ce que l'association Atelier Français fait. Ça sert beaucoup. Vu l'exemple d'Aminata, on parlait deux fois, elle dit qu'elle est venue, elle ne savait rien de la langue française, tellement qu'elle a amélioré. Elle est arrivée déjà à l'OFI, elle avait un niveau déjà pas mal. Là.
Ce ne sont pas des langues, mais effectivement, le geste d'écriture, c'est aussi le dessin. Et on pratique aussi beaucoup le mime. Moi, je suis un peu une handicapée de la langue, puisque j'en ai qu'une. Et du coup, il y a d'autres langages qui se mettent en place. C'est vivant.
Ça peut être ludique aussi.
Oui, quand on arrive nous-mêmes à faire un peu les clowns, les mimes, les choses comme ça, et puis qu'on arrive à les intégrer dans l'humour, parce qu'on n'a pas forcément la même langue d'humour, mais ça les fait drôlement rigoler quand ils nous voient, Marie-Noël et moi, faire les clowns quand même. Donc il y a quand même un langage commun dans l'humour. On n'y arrive pas tout le temps, on n'est pas tout le temps branché sur ces formes-là, mais quand on y arrive, ça c'est impérissable comme souvenir en fait.
Et le sourire qu'ils ont en ressortant aussi, il est important, il fait du bien.
Comme on s'inscrit en amont de la fête des langues, puis qu'on parlait un petit peu de l'humour et puis la différence culturelle par rapport à l'humour, est-ce que vous pouvez me raconter une histoire et puis la traduire?
Alors ça, quel exercice?
Une blague peut-être, oui. En arabe, je dis ça. Mutachesh ahtarak beta. Ya'mir ranna lelitfa.
On ne comprend pas l'arabe, donc c'est normal qu'on ne rigole pas. Mais ça donnerait quoi aux Français?
C'est un monsieur qui est drogué, puis un incendie chez lui. Il fait bip au secours, aux pompiers. Au lieu de les appeler, il les bip. Il veut que c'est eux qui les appellent. Donc il les bip et ils...
Ah oui, d'accord.
Non, ça vient pas, Margot.
Si, ça vient à partir de ça. If you think that you can have three wives, so I should be able to have three men. Si vous pensez que vous pouvez avoir trois femmes, je peux penser que je peux avoir trois maris.
Écoutez bien Pearl Harbor, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
Nous, ce qu'on sait simplement, c'est que tous ces gens qui viennent volontairement au cours de français, c'est la première intégration qui devrait être prise en compte par l'État. Il n'y a pas que l'intégration par le travail et la scolarité, il y a l'intégration par le désir d'apprendre la langue du pays où on est arrivé, où on a été plus ou moins bien accueilli. Et cette intégration, on le voit, on voit la volonté qu'ils ont d'apprendre la langue. On voit comment ils sont assidus, déjà. Ensuite, leur volonté de comprendre. Ils mangent le tableau, ils mangent nos mots. Enfin, c'est des gens, ils ont vraiment envie de s'intégrer, d'abord par la langue. C'est vital pour eux. Ils ne sont pas venus ici en vacances, ils ne sont pas venus ici pour, profiter des allocations, tout ça. Non, ils sont venus dans un vrai désir d'intégration dans ce pays qu'est la France.
J'ai vu beaucoup de ces trucs qui montrent un peu cela. J'étais plusieurs fois au jardin des plantes et je vois nos apprenants qui ont des livres et en train de lire des livres soit franco-arabes, soit anglais-français, soit qui sont en train de lire, d'apprendre. Et bien, je m'approche et bien, je donne des petits mots d'encouragement. Ça nous donne, nous, le courage quand on voit ça. C'est un plaisir pour qu'on voit que vous faites tout votre possible pour s'améliorer, pour s'intégrer à la société.
Beaucoup répondent présents pour s'inscrire à la médiathèque aussi. Très bon outil, la médiathèque.
J'ai le souvenir de personnes qu'on a accueillies ici qui resteront dans ma tête pour le restant de ma vie et qui ont disparu de nos horizons. Parce que, ils ont peut-être obtenu l'asile ou on n'en sait rien, on ne sait pas la suite. Et je me souviendrai toujours de ceux qui ont compris que A plus I, ça faisait E ou O plus I. Ça faisait ouah, et le sourire qu'il y avait sur le visage parce que d'un seul coup il y avait une clé pour ouvrir une porte. Et j'ai des souvenirs de sourire incroyables. J'ai compris, ça y est, j'ai compris. Et ça, waouh, ça me touche beaucoup en fait.
Petite anecdote, moi qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est sur 22 apprenants, je crois, il y avait 16 nationalités dans cette petite salle. Ah, c'est beau, tant de nationalités, et tout le monde est là pour apprendre le français. C'est une vraie volonté de s'intégrer.
Café La Perle, le public est plutôt masculin.
C'est difficile pour les mamans, déjà, de venir ici, à cause de la place, où mettre les poussettes. Les enfants, dès qu'ils marchent, ça devient vraiment le bazar ici. Les nouveau-nés, il n'y a pas de problème pour les emmener avec soi. Donc ça, c'est au Café La Perle, mais à Zellige, les femmes sont les bienvenues, parce que c'est plus aisé, il y a un ascenseur, il y a plus de place pour mettre les poussettes, il y a un endroit pour les enfants.
De toute façon, oui, c'est sûr qu'il y a moins de femmes, de toute manière, c'est-à-dire que la majorité sont des hommes. Est-ce qu'il y a moins de femmes qui prennent les chemins de l'exil? Apparemment non, d'après ce que j'ai pu lire, c'est 50-50. Par contre, les femmes ont des prises en charge différentes, mais on n'oublie pas non plus un autre aspect du problème, c'est que beaucoup de femmes sont assez très rapidement prises dans les réseaux de prostitution et elles disparaissent complètement de nos radars. On a pu le voir à certaines périodes où j'étais pas encore insérée ici, mais où je faisais pas mal de choses, rue Paul Bellamy avec d'autres gens, et où la volonté de capter le public féminin qui venait d'ailleurs était extrêmement difficile parce qu'elles étaient déjà dans les réseaux, elles étaient déjà sous emprise. Donc de toute manière, il y a une grosse problématique derrière. Je n'ai pas trop eu le temps de la suivre ces derniers temps, mais je sais qu'elle est quand même assez tragique.
Le moins de femmes, c'est le souci des enfants, des poussettes. Et puis moi, j'ai une voisine qui est vraiment intéressée de venir, mais elle n'a pas pu parce qu'elle a un enfant qui est handicap et qui n'est pas encore à l'école. Donc elle est obligée de rester avec lui 24/24 parce qu'elle est seule avec son fils. On a parlé un peu avec une de nos collègues, si elle pourra lui faire du cours à la maison.
Aller faire des cours chez elle.
Oui, chez elle. Peut-être 2 heures par semaine déjà, ça sera formidable.
« bien que diplômé, Souleymane ne trouve pas d'emploi dans son domaine de compétences.
Alors moi, j'ai un niveau de BTS Action Commerciale Marketing. Et voilà, je dois refaire à zéro. Bon, j'essaie de revoir s'il y a des universités où je peux avoir une attestation pour avoir un peu un diplôme à mon niveau. Mais je suis encore à la recherche avec mon assistante sociale pour voir ça.
Vous vous trouvez déqualifié ?
Ah oui, c'est très compliqué parce que j'ai déposé mon CV partout dans des agences de voyage ici à Nantes. Mais il paraît qu'un peu, il y a des logiciels ou des systèmes que les agents de voyage ici pratiquent que moi, je ne connais pas. Donc souvent, c'est des questions posées. Est-ce que vous savez comment ça marche ici, les agences de voyage ? Je dis non, c'est juste que je connais les logiciels et comment ça se passe chez nous, mais ici, je ne l'ai jamais fait. Peut-être j'ai une idée de faire une formation ou un stage, puis lancer mon projet. Mais je ne baisse pas la main, je tente, et j'arriverai.
Il y a d'autres cas comme Souleymane ?
Oui, on a des gens qui sont lettrés, on le sait. D'ailleurs, on s'en rend compte parce qu'ils saisissent très vite de l'outil, de tout ce qui est outillage d'apprentissage du français, beaucoup plus rapidement qu'un Ali qui est arrivé illettré en France et qui a dû déjà démarrer avec l'écriture. Il avait appris un peu d'arabe parce qu'il a été dans une école coranique à l'époque. C'était très long, très lent. Il a mis un an avant de pouvoir, voilà. Mais tous les gens qui sont un peu lettrés, on le voit très vite parce qu'ils ont une organisation dans leur technique. Moi, je le ressens. Je ne sais pas si toi, tu le sens ou toi, tu le sens. Mais moi, je le sens très rapidement. Je me dis, ah, à tous les coups, il a un bagage depuis son pays déjà.
Vous ne leur demandez pas de CV ?
On fait un accueil inconditionnel. Viens qui veut.
Et ils ne vous disent pas forcément.
Si on en parle, on peut en faire un thème, on l'a déjà fait. On a fait un thème, voilà, en pleine séance d'un jeudi, où on leur a fait évoquer ce qu'ils faisaient dans leur pays. C'est très important aussi qu'on leur rappelle ça. C'est toujours une bonne idée, Marie-Noël, hein, qu'ils puissent, eux, évoquer qu'avant d'être ici, ils avaient une vie. Et cette vie, elle est encore dans leur mémoire. Et on peut effectivement leur faire restituer qui ils ont été, parce qu'ils sont ici avec ce qu'ils ont été dans leur pays. Donc c'est très important, en fait, de continuer à faire vivre le souvenir, la mémoire, le savoir de leur vie d'avant.
Souleymane, vous avez quitté le Yémen à quel âge ?
J'ai quitté le Yémen en 2019.
D'accord, donc oui. Vous ne donnez pas votre âge.
Non. En 2019, j'avais quel âge ?
À présent, effaçons-nous devant la chorale à géométrie variable de La Perle.
C'est ma chanson d'aujourd'hui, le portugais. Avec son marteau piqueur, il creuse le sillon de la route de demain. Il y met du cœur, le soleil et le gel sont écrits sur ses mains. Le portugais dans son ciré tout rouge, qui ressemble à un épouvantail. As-tu vu ? L'étrange laboureur des prairies de béton et des champs de rocaille. Il faut en faire des voyages, il faut en faire du chemin. Ce n'est plus dans son village qu'on peut gagner son pain. Loin de son toit, de sa ville, à 500 lieues vers le nord, le soir dans un bidonville, le portugais s'endort. Il est arrivé à la gare d'Austerlitz, voilà 2 ans déjà. Il n'a qu'une idée, gagner beaucoup d'argent et retourner là-bas. Le portugais dans son ciré tout rouge, qui ressemble à un épouvantail. Il ne te voit pas, il est sur le chemin qui mène au Portugal. Il faut en faire des voyages, il faut en faire du chemin. Ce n'est plus dans son village qu'on peut gagner son pain. Loin de son toit, de sa ville, à 500 lieues vers le nord, le soir dans un bidonville, le portugais s'endort.
On va l'applaudir. Laurent, vous maîtrisez combien de langues ?
Depuis que je suis au café, j'ai l'impression de maîtriser beaucoup, beaucoup de langues, mais j'apprends 3 mots. J'ai appris le djiboutien, salama, pour dire bonjour, guacchalaï, pour dire je t'aime. Et puis, ça me suffit. Là, avec l'atelier de français, je pourrais. Mais le maître mot de l'atelier de français, c'est tout en français, et je le respecte. Parce que la meilleure façon d'apprendre le français, c'est de parler français.
Vous écoutez bien Pearl Harbor, magazine de la rédaction d'Alternante FM. Par le don de fournitures, vous pouvez aider d'une autre manière l'atelier de français. Sont les bienvenus les...
cahiers grand carreau.
Pourquoi grand carreau ?
Pour l'écriture, c'est plus facile. Pas trop épais pour que ça puisse rentrer dans leur sacoche et qu'ils puissent l'avoir avec eux. Des crayons.
Des crayons.
Et des crayons.
Des crayons stylos.
Oui, crayons stylos, oui.
Et puis une petite collation aussi.
Oui, on a en tous les cas à la Perle un boulanger qui nous gratifie d'un goûter. À la fin du cours, on a le droit à un goûter fait de pain au chocolat, de croissants, baguettes viennoises, tout ça.
On a un invité surprise. Vous êtes ?
Malik.
Malik ? Oui. Vous venez d'où, Malik ?
Du Soudan.
Du Soudan. Vous apprenez le français depuis longtemps ?
Depuis quelques mois.
Quelques mois ?
Deux mois.
Deux mois ? C'est difficile pour vous d'apprendre le français ?
C'est facile.
Pourquoi c'est facile ?
J'ai trouvé que c'est facile. Pas au difficile.
Vous parlez combien de langues différentes ?
Arabe et un peu anglais. Et ma langue maternelle.
Qui est ?
Langue de Sarawak. Zarawa.
C'est au nord, c'est au sud, en Soudan c'est...
Non, Soudan, Nord-Soudan.
Nord du Soudan, oui.
Donc le français, c'est beaucoup plus facile que l'arabe ou l'anglais ?
Non, le français c'est facile, l'arabe c'est très difficile.
Et qu'est-ce qui vous motive à apprendre le français ?
J'aime le français aussi, je veux étudier en France ici, continuer mon étude à l'université.
Au Soudan, vous étiez étudiant ?
Oui, je suis étudiant à l'université.
En quelle matière ?
Ingénieur.
Et en quelle année ?
J'ai terminé la troisième année.
Et là, il faut trouver l'équivalence en France pour poursuivre une quatrième année. Ou il faut tout recommencer.
Je souhaite que j'ai terminé mon quatrième et cinquième année.
Il faut déjà avoir le bon niveau de français, donc c'est les acquisitions qu'il doit faire.
Mais déjà, en deux mois, vous arrivez à me comprendre ?
Oui, j'ai fait deux mois à un niveau de AA, quand j'ai sorti le Soudan au Tchad, à la frontière.
Et puis d'autres témoignages.
Alton, je viens de Soudan.
Je m'appelle Aminata et je viens de Portugal, mais je suis née à la Guinée-Bissau.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous inscrire à cet atelier de français ?
J'ai inscrit à l'atelier de français parce que j'ai besoin d'intégrer en France pour apprendre le français. Comme ça, je voudrais les trouver un travail.
Alton ?
Parce que l'atelier de français, ça... Ça, quand je viens pour apprendre le français, ça donne l'espoir pour continuer, pour progresser la langue française.
Vous parlez combien de langues ?
Je parle quatre langues.
Qui sont ?
Ma langue maternelle, le Zagaola. Et après, je parle arabe et français. Après, je parle anglais aussi.
Moi, je parle portugais et un peu français. Et ma langue maternelle de Guinée-Bissau, créole.
Moi, je parle arabe. Et un peu français, un peu anglais, et ma langue maternelle, la langue des Arabes.
Vous avez appris vos langues à l'école, en famille ?
Pour moi, c'est en famille, parce que ma langue mère, c'est Zagara.
Et vous l'écrivez ?
Notre langue, ce n'est pas encore sur le clavier.
Donc on n'écrit pas ?
Oui.
On la parle simplement ?
Il y a des gens qui écrivent, mais ce n'est pas tout le monde qui écrit.
Avec la famille, et à l'école, juste les portugais.
Vous les écrivez, toutes ces langues, ou vous les parlez simplement ?
Non, simplement, parce que ce n'est pas officialisé pour écrire à l'école, juste avec la famille.
Malik me disait que le français, c'était facile à apprendre.
Pour moi, non.
Ah oui, c'est facile. Le français, c'est facile parce qu'en ce moment, il y en a plusieurs manières pour apprendre. Même si on vient à l'atelier de français, si on a appris les mots qu'on ne connaît pas, après on va aller chez nous pour traduire sur Internet, pour chercher sur Internet, pour trouver plein de choses. Parce que la vie maintenant, elle est moderne.
L'Internet, ça aide pour apprendre les langues plus facilement, c'est ça ?
Pour moi, non. J'apprends beaucoup avec mes animateurs ici.
Alors, nous a rejoint...
Najmeddin.
Vous êtes originaire de ?
Soudanais.
Vous pratiquez combien de langues ?
Je parle arabe, langue maternelle, français un peu.
Depuis combien de temps vous êtes inscrit à l'atelier de français ?
Depuis 6 mois comme ça.
Comment vous avez trouvé cette adresse ?
Mes amis, ils donnent l'adresse.
Entre vous, le bouche à oreille, c'est ça ?
Ah, oui.
Comment on dit bouche à oreille dans toutes vos différentes langues ? Peut-être qu'elle est différente, l'expression.
Menelfam, l'ozone.
En créole, boc en boc.
Un poème et deux chants pour célébrer la fête des langues.
Salut, je m'appelle Abjaro, je suis somalien. Sawir kaga, sidi muraayadi ii sawiran ayaa ah. Gawaygeega ugu quruxda badan, laakin markaas si fudud u waayo, waa igu dambeyn inaa dhaho, waan ku jeclahay. Waan ku jeclahay si, je t'aime.
On va chanter?
Ah oui. T'en fais pas, la vie est belle, comme un bol d'hirondelle qui s'en va et qui revient au printemps, un beau matin.
Je suis kurde, je m'appelle Omer, je veux chanter en kurde. Voilà.
Très bien.
Az Kurdistanım, bu kacihanım. Ciemirani şalgıranım Vaz Kurdistanım bu kacihanım Ciemirani şalgıranım Kan yajine vare hebune Lehviya ve me roje derkhinin Kan yajine vare hebune lehviya ve me roje derkhine
bravo
vadiye seroku alu partime hemmi petrolu zeru zevime vadiye seroku alu partime hemmi petrolu zeru zevime Dayka mazlumu kemal khayrime Leşkeri roje berkhodaname Dayka mazlumu kemal khayrime Leşkeri roje serhildaname
Merci à Margot Wolf, Marie-Noël Salin, Mohamed Souleyman, ainsi qu'à
Malik,
Alton,
Aminata,
Najmeddin,
Abjaro,
Omer, pour leur libre participation à ce numéro de La Perle à rebours, enregistré à Nantes au Café La Perle et réalisé avec les complicités de Christelle Bilan, Nasser Zouran et Laurent Messager.
Je veux dire un petit truc,
parce que vous êtes venus pour nous partager ensemble la radio. Je veux dire merci beaucoup. Vous, on aussi, tous les bénévoles, vous êtes un modèle pour nous. Merci, merci à vous.
Merci à vous.